Laban se leva de bon matin, embrassa ses petits-enfants et ses filles et les bénit. Puis il partit pour retourner chez lui. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. À leur vue, Jacob dit « C'est le camp de Dieu » et il appela cet endroit Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à son frère Ésaü dans le pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre « Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes. Et j'envoie des messagers te l'annoncer, mon seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. » Les messagers revinrent vers Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait « Si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit « Retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant, je peux former deux camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur. J'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit « Je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne pourra le compter. » C'est à cet endroit-là que Jacob passa la nuit. Il prit dans ce qu'il avait sous la main pour faire un cadeau à son frère Ésaü. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânes et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi en laissant un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu ? Où vas-tu ? À qui appartient ce troupeau devant toi ?» Tu répondras, « À ton serviteur Jacob, c'est un cadeau envoyé à mon seigneur Ésaü. Le voici qui vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au deuxième, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ce message que vous transmettrez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous annoncerez aussi, « Ton serviteur Jacob vient derrière nous. » Il se disait en effet, « Je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et fit passer à tout ce et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob. » Mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, parce que Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Jacob leva les yeux et regarda. Il constata qu'Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, puis Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, l'étreignit, se jeta à son cou et l'embrassa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants et demanda, « Qui sont ceux-là pour toi ?» Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü demanda : À quoi destines-tu tout le camp que j'ai rencontré ? Jacob répondit : À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit : Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui t'appartient. Jacob répondit : Non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte ce cadeau de ma part. En effet, je t'ai regardé comme on regarde Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc ce cadeau qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Je ne manque de rien. Jacob insista auprès d'Ésaü et celui-ci accepta. Ésaü dit : Partons, mettons-nous en route, je marcherai devant toi. Jacob lui répondit : Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles et que j'ai des brebis et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau mourrait. Que mon Seigneur prenne les devants sur son serviteur. De mon côté, je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Seigneur à Séir. Ésaü dit : Je veux au moins laisser une partie de mes hommes avec toi. Jacob répondit : Pourquoi cela ? Je veux seulement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Le même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir. Quant à Jacob, il partit pour Soukhot. Il se construisit une maison et fit des cabanes pour ses troupeaux. Voilà pourquoi on appelle cet endroit Soukhot. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il y installa son camp devant la ville. Il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente au fils de Hamor, le père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Et là, il construisit un hôtel qu'il appela El Eloé Israël.
Merci, Sylvana. Donc, on est dans le chapitre Genèse 32 et 33. Ça va comme ça, Taylor? OK. Et on va parler sur l'histoire de Jacob. Merci l'équipe du Longe. Et ce soir, on va parler de cette histoire. Quand j'ai grandi, j'étais dans une université. J'ai vécu, je pense, 4 ans dans une fraternité. C'était un dormitoire avec 40 gars dans le seul dormitoire. Et j'ai partagé une chambre avec mon coloc qui s'appelle Tigi. Et Tigi, chaque semaine, on se retrouvait souvent les 40 gars et on a discuté des choses très importantes. Qu'est-ce que c'est la prochaine sortie, par exemple? Des projets pour aider les gens, ça c'était important. Aussi des sports et aussi des trucs à régler, comme comment on peut éviter de ne pas mettre le feu à la maison ou de ne pas l'enlever, parce qu'on a fait pas mal de bêtises à cette époque-là. Et je pense que j'ai trouvé la solution pour le prochain AG. Quand ça chauffait entre nous, on a fait la lutte. Voilà. Et c'était difficile quelquefois. Donc, on a fait la lutte pour trouver la solution. Mon coloc, Tigi, il était moitié de ma taille. Et donc, il était très sympa. Mais il n'a jamais perdu un seul combat pendant toute sa vie à l'université. Il avait le vœu d'être très sympa, juste cool. Mais le nouveau ne savait pas qu'il avait un ceinture noire de jiu-jitsu. Voilà. Donc, TJ s'amusait d'abord. Il a joué un peu le rôle. Jusqu'au moment que le gars deux fois plus costaud que lui et qu'il arrivait, il plaquait son adversaire sur le sol et il a gagné. Et il n'arrêtait pas. Il n'arrêtait que quand l'autre demandait grâce. Tigi a toujours remporté la victoire contre son adversaire parce que son adversaire était obligé de se soumettre à sa puissance, de se soumettre à son force, même sa capacité à gérer le bon combat. Ce soir, le texte parle aussi d'une lutte, quoi, d'une lutte de Jacob qui se retrouve quand il se battra vers l'ange du Seigneur. Mais on sait que ce n'est pas vraiment l'ange du Seigneur, il y a quelque chose d'autre là. Et ce n'est pas qu'une bataille physique, c'est aussi une bataille spirituelle. Est-ce que Jacob va faire confiance à Dieu? Est-ce qu'il va se mettre à la gloire de Dieu quand il est face à face avec lui? Ou il va continuer à travers comme il veut, comme il peut gérer lui-même. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui se passait dans la dernière prédication? Quand Jacob il quitte Canaan pour aller chercher une femme, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob fait un rêve bizarre où il y avait une échelle qui descend, un dieu qui descend sur la terre. Et qu'est-ce qu'il a dit au chapitre 28, verset 20? Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Quand Jacob est parti, il est parti avec toutes ses expériences. Il avait sept frères qui avaient un contre lui. Mais durant ces 20 ans, 20 années qui ont suivi, Dieu a commencé à travailler sur le caractère de Jacob. Dieu a travaillé pour transformer même son caractère et le cœur de Jacob et même peut-être Ésaü. L'histoire de Dieu, le Créateur, l'histoire de le Père d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, montre que nos galères seront utilisées souvent pour former notre caractère. Surtout lorsqu'on apprend à lâcher prise et à faire confiance en Dieu. Dieu nous transforme petit à petit. Ce n'est pas souvent tout de suite, mais petit à petit, au fil de notre parcours avec lui, il nous transforme. Ça, c'est la chose qu'on va regarder ce soir. C'est dans nos limites, c'est dans nos erreurs, c'est dans notre vie quotidienne que Dieu nous transforme notre caractère. Pas parce que l'on mérite, mais simplement parce qu'il nous aime. Quand on est faible, il est fort. Quand on est petit, il est plus grand. Et ça, c'est pourquoi on loue notre Dieu Seigneur. Servir Dieu, ce n'est pas d'abord s'améliorer soi-même, mais de laisser transformer notre vie, même quand on se sent fragile ou même perdu. Donc, ce soir, on voit que Dieu transforme notre caractère, même dans notre lutte avec lui, afin qu'on puisse avancer et le servir, même en boitant. Donc, la première partie, c'est Dieu transforme notre caractère, même dans notre lutte avec lui. Et souvent, c'est à cause de notre péché. Ce qu'on a lu, chapitre 32, verset 1 à 6. Il y avait un passé, n'est-ce pas? Jacob a fait des bêtises. On a regardé. Pour rentrer chez lui, Jacob doit rentrer et il doit revoir Ésaü. Et la dernière fois qu'il a vu Ésaü a vu carrément rendre compte, carrément lui régler son compte. Donc il y avait un problème là. Verset 5 à 6, Jacob envoie ses messagers avec des cadeaux et à son seigneur Ésaü pour trouver grâce à lui. Il me semble que c'est important à noter que qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je voudrais bien envoyer ses cadeaux à son seigneur. Et aussi, il cherche sa grâce. Jacob avance dans le plan de Dieu parce qu'il a appris pas mal de choses ces dernières 20 années. Il avait des conséquences, mais il a appris pas mal de choses. Et souvent, quand on avance dans le chemin avec Dieu, on a des conséquences à cause de notre passé. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ces premières parties. Comme Jacob, Dieu change notre caractère par l'humilité. Et souvent, quand on accepte nos péchés et notre passé, parfois, on a fait de bêtises, on a blessé d'autres qui, dans notre passé, et on a pas mal de choses qu'on doit trouver de réconciliation avec eux. Et souvent, ce n'est pas facile à trouver notre identité en Christ parce qu'on ne voit que nos bêtises de le passé. On voit tous nos péchés de le passé. Et on ne peut pas voir qu'on a une vraie identité qui se trouve en Christ parce que le passé est plus grand. C'est ce qu'on voit dans ces premiers versets. La deuxième chose qu'on voit, c'est au sein de nos craintes. On lutte, on combat, on fait un bon combat avec notre Dieu au sein de nos craintes. Versets 7 à 13. Jacob apprend que Ésaü débarque avec 400 hommes. C'est Raphaël qui a fait le bon teaser. Mais c'est vrai que Ésaü débarque avec 400 hommes et il tremble quand il a reçu la nouvelle. Verset 8. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Jacob et toute sa famille se trouvent coincés entre la promesse de Dieu, la chose que Dieu les a dit, et la réalité de sa vie quotidienne. Et Jacob commence à imaginer tous les scénarios possibles. Comment je peux éviter un peu le dégât si Isaac m'attaque? Qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce qu'il a dit? Son anxiété le pousse à prier. Mais il me semble qu'il reste un peu distant. C'est un peu la chose qu'on a déjà lu avec Raphaël. Verset 10, Jacob dit, « Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. » Je reste là juste parce qu'il me semble qu'il parle de, oui, c'est la foi de mes ancêtres, c'est la foi de mon père. Ce n'est pas ma foi. Mais on voit dans verset 11 que non, il y a quelque chose qui a changé dans le cœur de Jacob ces derniers 20 ans, quand il dit, « Je suis trop petit, toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, » Encore, il parle de la promesse que Dieu a déjà donnée. « Je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille au sable de la mer, si abondant qu'on ne peut le compter. » Donc, il ne parle pas vraiment au début à son Dieu, il parle de le Dieu de son Père. Mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de commencer à transformer dans la vie et dans le cœur de Jacob. Quand il est en train de rappeler la promesse que Dieu lui a donnée. Jacob prie en pensant à la promesse de Dieu. Mais s'il a fait ce que Dieu lui demandait, il croit quand même qu'il y a des problèmes actuels, dans la vie actuelle. Et son obéissance ne lui a pas enlevé ses soucis ou les dangers. Dieu lui a promis de belles choses, mais il y a des choses juste devant lui qu'il doit régler avec son frère Ésaü. Et il me semble souvent c'est comme nous. Quand on prie comme Jacob, on montre qu'on fait une confiance à Dieu, mais ça ne change pas qu'on a des conséquences. On a des choses qui se passent dans notre vie qui sont difficiles. Et c'est difficile aussi de voir l'avenir. On ne voit que les choses qui sont juste devant nous. Mais quand on prie comme Jacob, parfois il faut passer par des moments difficiles et mettre ses peurs de côté et de prendre le genou et prier à Dieu. Il me semble que souvent, c'est plus facile à penser à toutes nos faiblesses, de penser tous à nos craintes, que les choses qu'on a en Dieu et dans notre relation avec lui. Les peurs sont normales, c'est une partie de notre vie. Mais il vaut mieux les reconnaître. Mais n'oublions pas que Dieu est toujours plus grand que nos craintes. Toujours plus grand que nos craintes. Et sinon, on risque de trop penser à nos faiblesses, à nos craintes, et on n'avance pas avec Dieu. Et on rate cette expérience quand on fait quelque chose, oui, qui nous donne la peur, qui nous donne la crainte, mais on voit que Dieu est plus grand que ses craintes. Et on rate ces opportunités. Il me semble souvent, la première chose que j'ai fait quand j'ai des craintes, je commence à trouver la solution. Mais ce qu'on voit avec Jacob, il cherche une relation avec son Père, avec son Dieu, et il prie. Est-ce qu'on aura une église qui prie quand on voit les choses qui sont difficiles devant nous? Ou est-ce qu'on fait comme je fais souvent? La troisième chose, on lutte contre Dieu parce qu'on a besoin de tout contrôler. On veut bien contrôler la situation, donc on regarde tous les scénarios. Et c'est un peu ce que Jacob a fait, versets 14 à 24. Comme d'habitude, Jacob est très intelligent. Il a bien réfléchi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y a 400 hommes qui viennent d'arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Première chose, il envoie d'abord tous ces animaux. Pourquoi? Pourrais-tu imaginer, tu avances, tu as une armée, et maintenant, il y a des animaux qui viennent d'arriver. Ça va créer des bazars dans le camp d'Ésaü. Donc ça, c'est la première chose qu'il a fait. La deuxième chose qu'il a fait, il a envoyé ses serviteurs, pas tout de suite, pas tous ensemble, mais avec des vagues, un après un, après un, avec un peu de distance entre les différents camps. Pourquoi? Parce que pour fatiguer un peu l'armée d'Ésaü. Parce que, ah oui, c'est juste un autre groupe. Ah oui, c'est juste un autre groupe. Pour fatiguer et de peut-être mis un peu leur garde. La troisième chose qu'il a fait, il envoie chaque groupe avec le même message, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ton serviteur, Jacob, t'envoie un cadeau. Mon seigneur Ésaü et Jacob est juste derrière nous. Il vient d'arriver. Et là-dessus, à la fin, Jacob mit sa famille et ses biens tout derrière, au cas où il faudrait qu'il s'enfuit parce que Ésaü attaque. Est-ce qu'on fait la même chose souvent quand on voit des conflits, quand on a des problèmes? On veut bien contrôler, donc on crée notre scénario, solution A, solution B, solution ça. C'est souvent la chose que j'ai fait. Mais souvent, on ne trouve pas notre solution dans la prière. Et souvent, on veut essayer de garder ce contrôle nous-mêmes. Et même de peut-être changer le résultat par notre force même. Je ne sais pas si tu as fait ce truc d'elle-même un peu, beaucoup, passionnément, à la folie et pas de tout. Et souvent, on a réussi, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a bien contrôlé comment on arrive à la solution? Oui, et on fait la même chose aujourd'hui, n'est-ce pas? Dieu, je viens que tu me guides dans cette direction-là. Et on arrive là. Oh, c'est incroyable, Dieu a répondu à ma prière. On verra. Et on est toujours dans cette tension qu'on voudrait bien trouver le discernement, on doit être aussi faire les actions. Mais il me semble que quelquefois, on essaie de tout contrôler. La quatrième chose qu'on voit dans ces versets, c'est versets 25 à 33. Et c'est le problème de notre fierté et égoïsme. Jacob se retrouve tout seul et tombe sur l'ange du Seigneur. Et ça, c'est vraiment pour moi l'image centrale de ce texte. Ce n'est pas juste un combat physique, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui part de l'intérieur de Jacob. Et en réalité, c'est plutôt une lutte intérieure, ce n'est pas une lutte physique, ce n'est pas Tigi qui combat avec son ceinture noire. Non, c'est Dieu qui combat Jacob. Est-ce que Jacob va enfin laisser Dieu prendre le contrôle de sa vie? Est-ce que Jacob va continuer à tout vouloir contrôler la situation lui-même? Et Jacob, c'est son caractère, il insiste quoi? Il insiste, je veux mon bénédiction, je veux mon bénédiction. Il insiste. Et ce qu'on voit dans ce texte et ce qu'on voit dans les autres textes souvent, l'ange a répondu et il a changé le nom de Jacob. Et Jacob est devenu pas quelqu'un qui parle de la rusée ou quelqu'un qui parle de la tromperie ou le menteur, mais maintenant il est devenu Israël, qui ça veut dire une lutte avec Dieu et les humains qu'on s'en sorte. Ça veut dire qu'il a été face à face à Dieu et il est sorti, et même avec les humains. Donc ça marque quelque chose dans la vie de Jacob. Jacob comprend qu'à ce moment-là, en fait, ce n'est pas un combat entre juste quelqu'un. Ce n'est pas un étranger, là. Ça, c'est Dieu lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Verset 31. J'ai vu Dieu face à face à ma vie a été sauvé. Le soleil se levait, lorsqu'il passe à Peniel et Boîtier de l'Anche. Cette rencontre, c'était marquant pour Jacob, parce que pour la première fois, il me semble, même après ses 20 années avec Laban, avec sa famille, c'est à ce moment-là qu'il rend humble devant face à face la gloire de Dieu. Et il a bien compris, ah oui, il est mon Dieu. Ce n'est pas le Dieu de mon père, il est mon Dieu. Est-ce qu'il a changé son caractère tout de suite? Non. Et je trouve que c'est intéressant parce que dans les autres histoires, on voit Abraham est devenu Abraham. Et ce qu'on voit dans la Bible souvent, après, c'est Abraham, 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 Abraham. Qu'est-ce qu'on voit avec Jacob est devenu Israël? Mais souvent, après, qu'est-ce qu'on voit? Il utilise Israël, quelquefois il utilise Jacob. Il me semble qu'on est comme ça, n'est-ce pas? On sait qu'il y a une vraie identité en Christ, mais quand même, je veux bien faire ma vie. Et c'est exactement ce qu'on voit dans ce texte. Oui, il a pris l'humilité, mais ce n'était pas tout de suite. Ce n'était pas une spiritualité micro-ondes. Ce n'était pas une spiritualité rapide. Non, c'était une demande de persévérance. C'était une demande de patience. C'était une demande d'être de plus en plus humble, petit à petit, dans la vie de Jacob, pour bien expérimenter la bénédiction de Dieu. Dieu transforme notre caractère afin qu'on puisse avancer et le servir, même en boitant. Ça, c'est le deuxième aspect. Et il me semble qu'il y a deux aspects, en tant qu'ambassadeur de réconciliation et aussi par la façon qu'on peut accomplir le plan de Dieu. En tant qu'ambassadeur de réconciliation, on voit dans chapitre 33, 1 à 11, qu'est-ce qui se passait après ce combat avec Dieu? Jacob doit parler avec Ésaü. Donc, quand il voit Ésaü, il n'a pas changé tout son caractère parce que qu'est-ce qu'il a fait? Il a toujours ses faiblesses et il continue de vivre toujours un peu dans cette manière de favoritisme. Verset 2, qu'est-ce que Jacob a fait? Il plaçait en tête les servantes avant leur enfant, donc c'est la personne pas du tout importante pour lui. Puis, Léa, avec ses enfants, c'est la femme qu'il n'aimait pas. Enfin, Rachel, son amour, avec Joseph, son favori. Donc, oui, il y a toujours des faiblesses là dans la vie de Jacob. Et c'est, on voit aussi peut-être que c'est partie de son famille d'origine. C'est pas nouveau. Il a vécu ça avec ses parents aussi, n'est-ce pas? Mais Jacob mit à sa famille à l'abri la chose qu'il a changée. Il a pris un peu le courage parce que c'était lui qui était devant quand il a rencontré son frère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'incline plusieurs fois pour bien montrer qu'il n'était pas là pour dominer son frère Ésaü. Il n'était pas là pour manipuler comme il a fait des années avant. Il veut juste la paix. Il vient avec ces aspects de la paix. Et qu'est-ce qu'on voit avec la réaction d'Ésaü? Ésaü, il a répondu, il court à sa rencontre. Il court vers Jacob. Il l'accueille à bras ouverts, sans rancune. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pleurent ensemble. Ils pleurent ensemble. Il me semble souvent dans ma vie, quelquefois quand je cherche des moments pour réconciliation, que oui, je dois avancer vers la réconciliation, mais aussi je vois que souvent Dieu d'avance, c'est déjà. Et souvent, il a déjà travaillé dans le cœur de ces personnes, même avant que je suis arrivé. Pas toujours, mais souvent. Il me semble que c'est ce qu'on voit, quand même Dieu a travaillé dans le cœur de Jacob et aussi il a travaillé dans le cœur d'Ésaü. Et cette scène montre que même blessé, même fragile, par nos luttes antérieures, on peut choisir la voie de la réconciliation. Dieu ne nous guérit pas juste pour nous-mêmes et pour notre relation avec lui, mais aussi pour la relation avec les autres. Aimez les uns et les autres. Et la grâce de Dieu change notre perspective. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il me semble, qu'est-ce que Jacob a dit? Je suis le plus petit. Je ne mérite pas toutes ces grâces. Et comme ça, il peut chercher la réconciliation parce que il n'y a aucune chose plus grande que la grâce que Dieu et la grâce que Dieu l'a donnée. La deuxième chose qu'on voit aussi, c'est vers Dieu et son plan éternel, versets 12 à 20. On ne sait pas trop si Jacob n'a pas voulu aller avec Ésaü. Ésaü a invité. On voit qu'il y a une histoire là. Jacob a donné des excuses, donc il est toujours là. Comment je peux manipuler un peu la situation? Mais il n'est pas retourné vers Ésaü et sa famille. Il a traversé et il a acheté des terres dans la terre promise. Mais il me semble la chose qui est claire, que même malgré toutes ses décisions, il avait un Dieu qui était toujours avec lui. Pendant ses 20 ans vers chez Laban, jusqu'à ce moment-là, il vient d'arriver, il a acheté des terres. Ça, c'est important parce que ça veut dire que maintenant, on a des terres à Canaan, la terre promise. Quelques-uns même disent que c'est peut-être Jérusalem. Donc, c'est important. Et il est arrivé là. Pourquoi? Parce qu'il est mérité? Non, c'est que la fidélité de Dieu. Jacob arrive dans la terre promise, tout comme Dieu l'avait promis, pour servir dans son plan éternel. Et ça, c'est des choses qu'on voit quand Dieu transforme notre caractère. Ce n'est pas juste pour nous, mais aussi c'est pour accomplir son plan, pas juste pour nos relations, mais aussi pour les autres relations. Comme Jacob, on se retrouve nous-mêmes entre la promesse de Dieu et aussi une terre promise. On a cette terre qui, on sait qu'il y a une terre promise dans l'avenir en tant que chrétien, mais aussi on voit la réalité aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir avec nos yeux, mais ça existe. Jésus a établi son royaume quand il est venu par sa vie, sa mort et sa résurrection, mais on n'est pas encore là. Je ne suis pas encore parfait. Je sais, Christine, je ne suis pas encore parfait. On n'est pas encore là. Ce monde n'est pas encore restauré. On a toujours le problème dans ce vie. On a toujours le problème. On a toujours la guerre dans ce monde. Dieu n'est pas encore terminé à renouveler cette terre. Et souvent, on ne peut s'accroire que, OK, c'est à moi maintenant. C'est moi, je dois m'avancer. Je dois avoir plus de confiance et on y va, on avance. Mais il me semble souvent, quand on fait ça, c'est plutôt vers la perspective de nous-mêmes. Avec un peu le chant de Daft Punk, je ne veux pas le chanter, mais « Harder, better, faster, stronger ». Et qu'est-ce qu'on fait après? « Work is never over ». Le travail sans fin. Et même en tant que chrétien, on fait la même chose, n'est-ce pas? On croit que l'Évangile est plus grand, mais on est toujours en train de travailler pour notre grâce que Dieu nous a donnée. L'autre aspect, c'est souvent on pense que notre passé est plus grand, notre fragilité est plus grande, nos faiblesses sont plus grandes, et on est trop focalisé sur toutes nos faiblesses qu'on ne peut pas avancer dans le plan de Dieu et accomplir son plan parce qu'on regarde nous-mêmes. Et on n'avance pas parce qu'on ne voit pas la bénédiction que Dieu nous a donnée dans l'avenir. Dans les deux cas, on cherche des solutions sans Dieu. Mais Dieu nous connaît depuis toujours, même quand on est dans le ventre de nos mères. En plus, la Bible raconte que Dieu a envoyé Jésus comme un mari qui cherche sa future épouse, l'Église. Église parfaite. La bonne nouvelle pour chacun de nous est que Jésus a le pouvoir de changer notre perspective de le passé, de changer notre présent et même de changer notre futur. Et que Jésus porte tout ce que ne veut pas chez nous, qui ne va pas chez nous, et il nous appelle racheté. On a une nouvelle identité en lui. Une vie centrée sur l'Évangile, elle nous montre que la réponse est toujours en Christ seul. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit mériter, mais c'est, on ne mérite pas que Christ. Qu'on est peut-être plus mal en point qu'on croit, mais aussi que Dieu et la grâce de Dieu dépassent tout ce qu'on peut imaginer. On n'a pas même la parole, on n'a pas même le mot à expliquer comment la grâce de Dieu est si grande. Parce que c'est Dieu. C'est assez grand. Mais il nous prépare, il nous transforme dans cette vie-là pour cette future vie. Et il nous transforme. Il transforme notre caractère dans la galère de la vie aujourd'hui pour son plan éternel. Grâce à l'Évangile, Dieu transforme notre caractère, même dans notre lutte avec lui, qu'on puisse avancer et le servir, même en boitant. Même en boitant. Donc, avant la prière en commun et la Sainte-Sainte, je voudrais aussi partager ce texte qu'on a lu cette semaine dans notre groupe de croissance. Et il parle de la Sainte-Sainte, mais je pense qu'on n'a jamais utilisé pour la Sainte-Sainte. C'est 1 Corinthiens chapitre 10, versets 14 à 17. Verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. » Tim Keller a dit, « Un idole, c'est tout ce qui prend plus d'importance dans ta vie. Que Dieu. C'est ce qui occupe ton cœur, ton esprit, plus que Dieu. C'est tout ce que tu cherches pour obtenir ce que Dieu peut te donner. » Si quelque chose devient tellement essentiel et central à ta vie et que tu ne pourrais plus vivre selon ce chose-là, alors ça, c'est une idole. Qu'est-ce que c'est le bon combat pour nous? Le bon combat, c'est que je vois mon passé et je veux bien remplir ce passé par quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Je vois mes craintes et je veux remplacer ces craintes par quelque chose qui ne vient pas de l'Évangile. Je vois le besoin de tout contrôler et je viens remplacer ces choses par quelque chose qui ne vient pas le sang de Jésus-Christ. Je vois toutes ces choses de mon égoïsme et je pense que c'est par mon confiance et mes dons et toutes mes forces que je peux mériter la grâce de Dieu. L'Évangile, ça veut dire que non, c'est que Christ. C'est que Christ. Et qu'est-ce qu'il dit, verset 16? Le coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-il pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Oui, on a chacun de faiblesse, on a chacun de force, mais il est en train de construire son propre église pour son propre moyen, pour son propre plan. Et on a des dons spirituels, on a toutes ces choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a regardé ce matin dans nos formations s'engager. Mais il nous invite à participer pour accomplir son plan éternel. Quelle bénédiction pour nous. Donc ce soir, on va répondre on va répondre en prière en commun avec sur la prédication, mais aussi on va faire le Saint-Saint juste après. Si vous croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes invités à prendre le Saint-Saint ce soir. Aussi, on va chanter une nouvelle chante et je vais vous inviter à chanter avec nous si vous connaissez, sinon vous pouvez écouter et puis vous pouvez nous rejoindre à la fin. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? Blessé, ça veut dire en boitant. Béni, humble et pardonné. La mort de fidèle de Dieu nous donne un avenir et nous équipe pour servir dans son royaume, pour son Église, en Christ, ensemble, en avant. Donc je vous invite à prier et puis on va prendre le Saint-Saint. Prions.